France Culture.
Le 16 mai 1896, un homme alors âgé de 38 ans adressait une lettre à un jeune normalien agrégé de philosophie. « Je souhaite que la lecture des économistes vous serve plus qu'elle ne m'a servi. Moi aussi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, j'ai cru que j'y trouverais la réponse aux questions qui me préoccupaient. J'y ai passé plusieurs années et je n'ai rien retiré, sauf ce que peut apprendre une expérience négative. » Émile Durkheim, auteur de ces lignes relativement assassines, exprimait ainsi à Célestin Bouglet toute la défiance qu'il anime dès lors qu'on lui parle d'économie, car cet homme a une mission, fonder la sociologie, en faire une discipline reconnue et la doter pour se faire de tous les fondements théoriques et méthodologiques nécessaires. Or pour Durkheim, cela passe par un démontage en règle de certains principes et certaines grandes lois des économistes, mais pour construire une telle critique, encore faut-il s'intéresser précisément à ce qui constitue les tenants de la pensée économique. C'est donc à un penseur contre l'économie que nous consacrons notre portrait du jour, et si Émile Durkheim ne mâche pas ses mots, son approche de l'économie politique est en réalité plus nuancée que cela et infuse aussi sa sociologie naissante. Du début de sa trajectoire intellectuelle à la constitution d'une véritable école qui se dote de disciples chargés de veiller notamment sur les travaux des économistes, la critique de l'économie chez Durkheim vaut d'une certaine manière reconnaissance. Et c'est ce rapport fluctuant et parfois ambigu qui permet de parler parfois de sociologie économique chez Durkheim, ce que nous allons retracer dans cette émission préparée par Paul Weinarter et programmé par Bruno Barada, réalisé par Françoise Le Floch et mis en onde aujourd'hui par Noé Chaban. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux éminents connaisseurs de l'œuvre très vaste d'Émile Durkheim. Mathieu Béra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sociologie à Bordeaux, vous êtes chercheur à l'IRDAP, l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine. Vous êtes également associé au CESOR, le Centre d'études en sciences sociales du religieux. Vous avez édité les leçons de sociologie criminelle de Durkheim parues en juin 2022 chez Flammarion. Et puis vous êtes également l'auteur de Durkheim, fondateur de la sociologie. C'est paru dans la collection Que sais-je en décembre 2024. Philippe Steiner, vous êtes également avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes quant à vous professeur émérite de sociologie à Sorbonne Université. Il y a quelques années, on peut le dire 20 ans désormais, vous avez écrit cet ouvrage « L'école durkheimienne et l'économie ». Puis en 2018, « La sociologie de Durkheim à la découverte » dans la collection Repères. Et puis on peut enfin citer un de vos plus récents ouvrages, « Faire la fête, sociologie de la joie ». C'était en 2023 aux presses universitaires de France. Alors Philippe Steiner, pour commencer, est-ce qu'on peut dire que ce qui a intéressé essentiellement Durkheim dans les relations économiques, c'est justement leur dimension, et de façon assez paradoxale, leur dimension non économique?
On peut présenter les choses de cette manière-là, en effet, dans la mesure où il faut avoir conscience, je crois, du fait que au moment où Durkheim écrit, les économistes ont tendance à vouloir mettre leur savoir à l'écart d'autres sciences sociales. Et donc, du coup, à l'écart de l'histoire, pour certains d'entre eux, ou de la vie sociale tout court. On va faire, prendre l'exemple de Léon Valras, hein, cette théorie de l'équilibre général, la recherche propre de l'équilibre général est indépendante de toute forme de vie sociale. Et Durkheim dit non, c'est pas possible. Et il a d'ailleurs, dans la période du début de son œuvre, une phrase où il dit... l'activité économique se passe dans la société. Ça complique les choses, il en est conscient. Mais on peut pas faire sans ça. Alors, on peut avoir évidemment des tas d'exemples. C'est par exemple la vie familiale. La vie familiale est extraordinairement liée à la question économique, sur un sujet d'ailleurs sur lequel Durkheim a des positions très radicales, l'héritage. On accumule la richesse, mais c'est aussi pour transmettre. Et donc là, il y a une dimension familiale qui est très importante. On peut voir aussi apparaître ce genre de phénomène en liaison aux politiques. Et pour Durkheim, on peut pas ne pas mentionner la dimension religieuse de la vie et la position particulière que la religion va avoir vis-à-vis de l'économie.
Et on va voir effectivement cette fameuse révélation, comme en parle lui-même Émile Durkheim, vis-à-vis du poids de la religion et du facteur religieux aussi dans le fait social de façon plus large, à quel point cela, on va dire, reconfigure aussi son approche du fait économique et de ses facteurs. Mathieu Béra, on l'entendait en tout début de cette introduction, tout de même, Émile Durkheim semble prendre ses distances, on va dire, vis-à-vis des économistes avec des mots relativement durs. Est-ce qu'on pourrait résumer grossièrement l'ambition méthodologique à ce premier stade de l'émission, on va dire, de Durkheim par cette espèce de mantra, finalement, expliquer le social par le social? De fait, ça laisse peu de place à l'économie. Est-ce qu'on peut pour autant dire que cette discipline-là de l'économie est totalement ignorée par Durkheim?
Je pense qu'il faut distinguer en fait vraiment deux phases dans l'œuvre de Durkheim. Une première phase où il a beaucoup misé sur l'économique. Il a beaucoup lu les économistes et puis il en a tiré une certaine insatisfaction par rapport à toutes les règles méthodologiques qu'il voulait poser, par rapport à tous les premiers travaux dans lesquels il s'est engagé, sa thèse, la division du travail social en 93, qui est son premier ouvrage, et puis le suicide en 97. Bon, dans ses ouvrages, l'économie qui est très présent. Il n'est pas prédominant, mais il est présent. Et puis, effectivement, il y a la rupture dont on va parler, sans doute. Le fameux passage à la sociologie religieuse, à l'intérêt pour la religion. Et à partir de ce moment-là, l'économique, il va le déléguer à des membres de son équipe de l'année sociologique. À partir de 98, il va suivre ça de loin. Et il va vraiment focaliser sur quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est qu'est-ce qui fait le mystère de l'association humaine? Qu'est-ce qui fait la force du collectif?
Mathieu Béra, on parle là d'une position critique finalement de Durkheim vis-à-vis de l'économie, mais peut-être qu'il faut remettre les choses dans un certain contexte aussi. Ça fait partie d'une certaine méthode Durkheim aussi d'avoir un regard critique, pas que sur la discipline économique. C'est aussi comme ça qu'il construit une forme de légitimité. Vous le dites dans un de vos articles qui met vraiment cela en valeur, cette idée vraiment de construire la controverse, de construire la critique. C'est une façon, c'est presque une méthode Durkheim en tant que telle. Est-ce qu'on peut dire que l'économie n'est pas seule à passer à travers ce radar, ce regard très critique de Durkheim?
Vous avez tout à fait raison. L'économique n'est qu'une cible, parmi les cibles de Durkheim, qui veut fonder la sociologie, contre et avec, attention, toutes les autres sciences sociales qu'il appelle gentiment les sciences auxiliaires. Et il veut faire de l'économie une dépendance de la sociologie, une branche de la sociologie. Il le dit dès sa première leçon inaugurale, quand il arrive à Bordeaux en 1887. Mais effectivement, toutes les sciences sociales sont bonnes à prendre. Il les apprécie toutes. Il apprécie le droit énormément. Il apprécie la psychologie. Il apprécie la philosophie. Enfin, la géographie. Enfin, il lit absolument tout. Et ce qui l'intéresse, c'est de fonder la sociologie, qui est une sorte de science sociale surplombante, qui est une science sociale synthétique, dans laquelle l'économique a des choses à dire. Mais elle ne peut pas avoir une position hégémonique, c'est pas possible. Pour Durkheim, c'est bien la sociologie qui est le cerveau de toutes les sciences sociales.
Je trouvais amusant que dans votre article, où on avance un peu, parce que vous avez étudié les comptes rendus notamment qui sont publiés dans l'année sociologique, et vous dites que sur 500 comptes rendus véritablement signés de la main de Durkheim, je crois que c'est un peu moins de 50%, 40% ont quand même une forte valeur critique, où voilà, les auteurs sont descendus dans les règles, donc ça fait partie quand même aussi d'une rhétorique durkheimienne, on pourrait le dire. Cela dit, Mathieu Béra, vous avez posé un jalon important, celui d'un Émile Durkheim qui se veut fondateur, pionnier aussi de la discipline sociologique en tant que telle, au même titre que Max Weber aussi, qui lui est plus ou moins contemporain. Cela dit, il faut quand même signifier quelque chose. Lorsque Émile Durkheim naît en 1858, le terme sociologie existe déjà. On dit souvent que Durkheim est un père fondateur, mais finalement, où en est la discipline au moment où Durkheim commence à s'y intéresser?
Alors, la sociologie existe, effectivement, le terme existe depuis 1835 à peu près. Il apparaît sous la plume d'Auguste Comte, qui reste la référence, l'une des grandes références de Durkheim jusqu'à la fin de sa vie. Il se réclame du positivisme, du comtisme, on appelle ça comme ça, comme beaucoup d'intellectuels de l'époque, y compris des hommes politiques comme Clémenceau, qui a traduit des travaux sur le positivisme. et ou Jules Ferry, j'y pense aussi avec les lois de 81 sur l'école. Donc ça appartient à l'élite hein, politique, intellectuelle. Et Durkheim vraiment arrive dans un moment où la sociologie est pensée par Auguste Comte, elle est pensée comme discipline, mais lui ce qu'il veut c'est que ça devienne une discipline universitaire. Et il veut concurrencer la grande philosophie qui est la discipline de sa formation initiale, qui est la discipline de tous ses collègues. Et c'est dans la revue philosophique, puisqu'il n'y a pas de revue sociologique à l'époque, qu'il pose les règles de la méthode sociologique en provoquant les philosophes aussi jusqu'à la fin de l'article, en leur disant « il faut que vous acceptiez l'existence d'une sociologie et elle vous sera utile, vous verrez ». Il faut laisser place à la sociologie en tant que discipline universitaire.
Et il faut encore lui donner une forme de légitimité aussi et d'assise méthodologique et théorique. Philippe Steiner, on en revient là à ce que vous avez commencé à nous dire en tout début d'émission, c'est que finalement, on le voit, la sociologie est un terme qui existe mais qui reste encore balbutiante en tant que telle, en tant que discipline en France. De son côté, est-ce qu'on peut dire que l'économie, et à plus forte raison l'économie politique, elle a pris de l'avance, une certaine avance en termes de reconnaissance et de légitimité? Vous vous dites qu'en 1877, l'économie politique entre à l'université. De fait, c'est déjà une forme de reconnaissance. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue-là, il y a une forme de retard, entre guillemets, de la sociologie vis-à-vis des économistes?
D'un point de vue de la reconnaissance, oui. Dans la mesure où l'économie politique a une date de naissance au niveau international avec l'ouvrage d'Adam Smith en 1776. Hein. Donc là, c'est quand même le grand moment. Il y a eu en France l'école des économistes, donc les physiocrates, à partir des débuts des années 1750. Donc il y a une antériorité effectivement très très marquée. Cela étant, l'économie politique jusque dans les années 1840 en France est un savoir qui est considéré comme un peu dangereux. L'économie politique est assez critique de l'ordre social par certains côtés. Elle a des idées sur la place de l'économie par rapport aux politiques ou par rapport aux droits qui bousculent un petit peu les manières de faire. Néanmoins, avancer dans le siècle, je parle du 19e, lorsque Durkheim intervient, la sociologie est balbutiante. Et elle a un caractère, enfin, elle a un statut, je crois, pour compléter ce qu'a dit Mathieu, un statut assez faible intellectuellement, parce qu'elle est associée à un savoir assez verbeux, assez général, qui est celui d'Auguste Comte, qui ne connaît pas l'économie, qui en parle assez mal et assez peu, d'une manière assez violente par rapport aux économistes en plus, et les économistes le regardent de haut. Je vous rappelle quand même qu'Auguste Comte prétend que la sociologie est la reine des sciences. Et les économistes disent non, c'est pas possible. Et donc du coup, Durkheim a besoin aussi de redorer le blason de la sociologie, lui donner une assise. Et je pense que ça va être une grande partie de son œuvre, avec la création, au fur et à mesure des années, d'une branche de la sociologie spécifiquement à l'économie, la sociologie économique, dont François Simian, Marcel Mauss et en partie Maurice Halbwachs s'occuperont dans les années 1920-1940.
Et de fait, une autre question est peut-être aussi en forme d'avertissement par rapport aux catégories, et notamment disciplinaires qu'on connaît aujourd'hui, qui ne sont pas nécessairement transposables à ce 19e siècle-là, certes finissant, c'est qu'on voit qu'il y a des frontières très floues, très poreuses finalement entre les disciplines. Et je voulais vous poser cette question-là, finalement de savoir si les disciplines sont à ce point bien identifié en tant que tel, Philippe Steiner, parce qu'on le voit ne serait-ce que dans le parcours de certains sociologues. On parlait de Max Weber, mais lui, il enseigne, pour commencer, l'économie politique. On pourrait aussi mentionner Pareto, qui est aussi contemporain, qui enseigne l'économie politique valracienne, on le disait à l'instant. Finalement, ce sont des parcours qui nous racontent aussi une certaine fluidité aussi entre les disciplines, Philippe Steiner.
Oui, c'est exact. Il y a une fluidité reconnue, dans la mesure où, tant en sociologie qu'en économie, il y a plusieurs portes d'entrée. Max Weber est un philosophe et un juriste de formation, économiste, de l'école de Gustav Schmoller. Pareto est un mathématicien appliqué qui, par ce biais de la mathématisation, va rentrer en économie. Et François Simian est un agrégé de philosophie qui passera une thèse de droit, à l'époque une thèse de droit version économie politique. Donc il y a effectivement une fluidité, comme il en existe une de nos jours, mais en distinguant deux choses qui est d'une part la discipline comme filiation pour la carrière académique, professeur de sociologie ou professeur d'économie, et le basculement de l'un à l'autre est très compliqué en termes disciplinaires. Maintenant, quand il s'agit de faire de la recherche, là, il y a une véritable fluidité. Un grand économiste contemporain comme Thomas Piketty fait de la sociologie.
Et on pourrait dire qu'il était aussi historien à sa manière, ce qui dépend des outils mobilisés à la fin de...
La recherche ne reconnaît pas les disciplines, donc il y a encore de la fluidité de nos jours.
En ce qui concerne la sociologie, en tout cas, et pour revenir à notre 19e siècle, c'est donc plus un programme qu'une discipline qui existe en ce milieu du 19e siècle, et notamment au moment de la mort d'Auguste Comte en 1857. Et du reste, on l'a dit, Mathieu Béra, Émile Durkheim ne s'intéresse pas d'emblée finalement à cette discipline. Il faut rappeler qu'il est philosophe de formation, on l'a dit, il passe l'agrégation de philosophie en 1882, il va enseigner cette discipline aussi au lycée à Sens, à Saint-Quentin et à Troyes. Pourquoi Mathieu Béra un tel choix d'orientation de la part du jeune Émile Durkheim?
Eh bien, la formation d'Émile Durkheim est une formation donc littéraire, dans laquelle on peut inclure effectivement la philosophie. Et quand il rentre à l'ENS, c'est difficile de savoir si en première année, il était vraiment décidé à être philosophe ou historien, bon, prof de lettres, je pense pas, ni prof de langue. Mais c'est vraiment, bon, quand il passe sa licence en fin de première année, qu'il fait une licence de philo, donc. Et il est plus marqué par ses profs de philo à l'ENS, comme Boutroux, que par les profs de lettres. Et il est aussi très marqué par le directeur de l'ENS, qui est Fustel de Coulanges, qui est un personnage très charismatique et qui suit de très près tous ses élèves. Et Durkheim restera toujours très très marqué par l'enseignement de Fustel de Coulanges, qui est un spécialiste de la Rome antique et qui insistait déjà sur le droit et sur la religion. Et je dis bien, je ne parle pas de l'économie.
J'entends, donc, je n'entends pas, de fait.
Voilà, donc après, il passe son agrègue de philo, et comme aujourd'hui, donc quand on a l'agrègue, on va au lycée. Il est prof de lycée pendant 5 ans, donc il est encore renforcé dans son identité de philosophe, mais il prépare sa thèse en même temps, qui est une thèse sur la solidarité, et c'est une thèse donc beaucoup plus sociale. Il s'intéresse aux questions sociales, et il s'intéresse plus particulièrement à tout ce qui est empirique. Donc comment repérer le social dans les statistiques, comment le repérer dans le droit, comment le repérer dans l'histoire. Et très vite, il trouve que la philosophie, et pour reprendre le terme de Philippe de tout à l'heure, et un peu, il le disait à propos de la sociologie de Comte, la philosophie est un peu verbeuse, théorique, abstraite. Et Durkheim, contrairement à ce qu'on dit souvent, est quelqu'un qui adore les faits, et que ce soit les faits historiques, que ce soit les faits juridiques, que ce soit les faits économiques, que ce soit les faits statistiques ou que ce soit les faits ethnographiques. Donc, il s'oriente vers une thèse de sociaux, mais il ne peut pas être prof de sociaux, il ne peut pas vraiment faire une thèse de sociaux. Ça, il faut attendre 1958 pour pouvoir faire une thèse de sociaux en France. Donc, il fait une thèse de philo, qui est d'ailleurs une thèse de lettres, en termes, disons, institutionnels. Et c'est grâce à une sorte de coup de chance qu'il est nommé par le directeur de l'enseignement supérieur, qui était un homme très très puissant, qui s'appelait Louis Liard, qui est assez méconnu par les historiens d'ailleurs. Et Louis Liard faisait et défaisait les carrières de tous les professeurs. Et il est nommé à la faculté de Bordeaux, à l'essai, comme doctorant, pour enseigner la science sociale et la pédagogie. Donc on disait pas la sociologie encore, et puis je précise bien, donc à Bordeaux, pour ne pas le faire à Paris, comme si c'était une épreuve d'essai. Et pendant, jusqu'à sa titularisation en 96, Durkheim va voir son contrat renouvelé tous les ans, avec le risque à chaque fois d'être nommé au lycée, si ça ne convient pas. Et il était inspecté tous les ans par le doyen de la faculté, par le recteur, Donc c'était...
une forme de précarité aussi.
Voilà, une forme de précarité, bon, qu'il assumait totalement. Il n'avait pas, très peur, hein, il se sentait très, très fort. Mais malgré tout, c'est, ça met une petite pression.
Philippe Stagnaire, vous avez hoché de la tête d'un air mécontent, ou en tout cas peu d'accord avec cette histoire.
C'est une précarité, certes, comme le vient de rappeler Mathieu, mais il est quand même normalien agrégé. Donc c'est quand même aussi une précarité, mais il a quand même un statut qui est extrêmement puissant dans la République de la période.
Et ce qui me permet, Philippe Stagnaire, de vous poser une autre question pour remonter peut-être encore un tout petit peu plus loin et un petit peu plus loin dans le temps, en avance on va dire, mais dans quelle mesure finalement, au-delà de ce choix disciplinaire de la philosophie dont on vient de parler, dans quelle mesure cette carrière-là, ne serait-ce que cette carrière universitaire, s'inscrit dans une forme de logique pour Émile Durkheim ? Est-ce qu'il était prédestiné quelque part de par son milieu familial, ou est-ce qu'au contraire ça constitue une forme de rupture ou d'ascension sociale pour lui ?
Je pense que devenir professeur d'université à l'époque était une véritable ascension sociale. En tout cas, beaucoup plus que ça ne pourrait l'être de nos jours. Ça, je pense, on pourrait même mesurer ça en revenus et le déclin du statut social depuis. Mais c'est pas forcément le sens de la question. Est-ce qu'il est prédestiné? Je pense que ça, son caractère brillant en tant qu'élève qui le fait reconnaître comme un des plus brillants de lycéens de sa période. Il tente l'école normale supérieure. Il a du mal, d'ailleurs. Je crois qu'il attend. Il faut trois fois, hein, pour qu'il rentre. Mais il est quand même reçu dans le sein du sein intellectuel de l'époque. Et une fois qu'il réussit l'agrégation, l'université lui est ouverte, en fait. Et donc, c'est pas, à mon avis, très surprenant. Et il excelle, hein. Mathieu l'a rappelé, ses cours à Bordeaux sont reconnus comme des cours brillants. Il renouvelle la science sociale très rapidement. Il a, je crois, un écho, y compris à l'étranger. Certains de ses ouvrages sont commentés, puisque j'en parlais tout à l'heure, par Gustav Schmoller, qui va rendre compte de son livre sur la division du travail social. Il rendra compte aussi également du livre sur la méthode. Il rendra compte aussi du livre sur le suicide. Et Gustav Schmoller, à ce moment-là, est un auteur d'une audience mondiale aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne. Donc il est quand même très rapidement propulsé au sommet intellectuel de ce monde autour de la sociologie, de l'histoire et de l'économie.
Ce qui contraste, Mathieu Béra, tout de même avec son milieu de naissance, avec la façon dont sa famille s'est inscrite aussi dans des trajectoires économiques. Il y a quand même une forme de distinction, notamment vis-à-vis de son père et puis des générations précédentes. Ça représente quand même un parcours relativement atypique dans cette histoire familiale-là.
Ah oui, c'est une exception, parce que dans sa famille, donc, on était rabbin de père en fils, du côté de la mère surtout, mais bon, son père est rabbin. Un rabbin, il faut rappeler qu'il y avait une condition très modeste. Moi, je vais parler un petit peu des revenus, parce que c'est quand même important. Il gagnait 1500 francs or par an, ce qui est le salaire qu'a touché Durkheim quand il est rentré à l'ENS. Donc le choix de la famille a été bon, parce que dès qu'il a été prof de lycée, il gagnait 5000, et à la fin de sa carrière, il gagnait quand même 15000. Donc il avait multiplié par 10 les revenus par rapport à ce qui aurait été son destin s'il avait été rabbin comme son père. Et moi, j'ai fait l'hypothèse dans certains articles que, en fait, c'est son père qui l'a poussé à être professeur, parce que lui-même aurait peut-être aimé être professeur de philo. Il n'a pas réussi à le faire. Mais bon, c'est un milieu modeste. La mère de Durkheim a été obligée d'ouvrir une petite entreprise pour compléter les revenus familiaux. Il y avait 4 ou 5 enfants, j'ai oublié. Et Durkheim était le petit dernier. Donc, il a vécu une ascension sociale forte. Et il est rentré, maintenant on appellerait ça un transfuge de classe, hein. Il a traversé l'espace social un peu comme Bourdieu, et il a changé de discipline. Il aurait pu garder la discipline noble de la philosophie. Il est passé, il a pris le risque de tenter une discipline qui n'existait pas, et il a réussi son pari, non sans difficulté, hein, parce que nous on a le regard rétrospectif de ceux qui voient le succès de l'entreprise, mais en attendant, c'était une épreuve, hein. Au quotidien, et il fallait beaucoup de charisme, beaucoup de passion pour faire ce qu'il a fait. Et d'autres, des adversaires entre guillemets, ou des concurrents qui sont un peu connus, comme Gabriel Tarde, comme René Worms de l'époque, n'avaient pas cette puissance charismatique. Ils ne se sentaient pas investis comme lui d'une mission, et ça peut-être fait la différence avec eux.
Et de fait, cette mission-là, Émile Durkheim l'incarne, c'est le fruit d'un travail, on le sent hein, à travers le récit notamment biographique, mais même la façon dont il construit aussi son travail et sa réflexion. En 1887, on le retrouve donc à Bordeaux, on l'a dit. Or, ces années bordelaises sont des années d'intense travail. Il y a quand même une force de production qui est assez remarquable, il faut le dire. Très concrètement, il enchaîne de la division du travail avec les règles de la méthode sociologique, puis le suicide en quelques années. Très concrètement, Mathieu Béra, quand Durkheim se lance, comment est-ce qu'il entend inscrire justement cette nouvelle discipline? Qu'est-ce qui l'intéresse en premier lieu? Pourquoi il commence avec ce sujet de thèse notamment de la division du travail?
Bien, en fait, il aborde la question du lien social, tout simplement, la question de la solidarité sociale. Il se demande comment une société tient, est capable de tenir, à une époque où la modernité détruit beaucoup d'éléments, où l'économique détruit, où l'économique ne régule pas du tout la société. Donc il a déjà une sensibilité très socialiste. Et on a oublié de dire tout à l'heure qu'à l'ENS, il était quand même très ami avec Jaurès, qui était de la promotion 78. Lui, il est de la promotion 79. Et c'est un compagnonnage qui va durer toute leur vie. Le neveu de Durkheim, Marcel Mauss, va toujours rester un compagnon de route de Jaurès. Il va participer à la Fondation de l'Humanité, etc. Donc il y a quand même une ambiance socialiste. Tous les collaborateurs de l'année sociologique seront des socialistes. Et donc Durkheim a cette fibre sociale. Et la solidarité, c'est une question sociale, fondamentalement, à l'époque. Donc la question, c'est de savoir comment, dans une société dans lesquelles il n'y a aucune règle économique stable, comment fonder du stable, c'est-à-dire du social, comment les individus peuvent être solidaires entre eux.
Qu'est-ce que vous faites exactement ?
Sociaux.
Pardon ?
Sociologie.
Ah, je vois.
France Culture, entendez-vous l'écho ? Aliatovine.
Philippe Steiner, il faut nous pencher là sur un premier paradoxe. Peut-être quand on entend de la division du travail, nécessairement, ça fera écho pour n'importe quel économiste, même le plus jeune, on va dire. Ça fera forcément écho à des travaux qui ont très largement et très longtemps intéressé les économistes, au premier rang desquels on peut évidemment citer Adam Smith. C'est un peu paradoxal pour quelqu'un comme Émile Durkheim qui veut justement se lancer, fonder, donner une légitimité à une discipline nouvelle qu'est la sociologie, de se saisir de ce thème éminemment économique. Comment on explique ce paradoxe-là?
Alors ça s'explique dans la lignée de ce que vient de dire Mathieu Béra, à savoir Durkheim s'intéresse à ce qui va donner de la cohésion à la société. Et il va poser une forme de symétrie, dont on peut retrouver d'autres formules par ailleurs, mais il va poser une symétrie entre une première façon de concevoir la cohésion qui est donnée à partir du moment où les individus sont tous pareils. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes représentations de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire, les mêmes représentations de la divinité, de l'activité économique. Là, tout le monde est conçu à peu près sur le même moule. Et donc là, on comprend que les gens soient cohésifs, puisqu'on pense pareil, on agit pareil, on ressent pareil. Et Durkheim met en évidence cette première forme de cohésion pour justement essayer de réfléchir sur le paradoxe que représente la cohésion dans la société moderne, où la cohésion doit se construire par le fait que les individus sont différents. Et donc là, on va avoir une cohésion par mutuelle dépendance, en quelque sorte, pour aller vite. Je suis le fabricant de bière, je reprends l'exemple d'Adam Smith, et je vais échanger avec le fabricant de pain ou d'aiguilles. Et donc c'est par combinaison de nos compétences différentes que nous pouvons faire cohésion. C'est parce que nous sommes étrangers, d'une certaine façon, les uns aux autres en termes de nos pratiques, que nous avons besoin d'autrui et que nous allons faire un groupe cohésif par la différence. Et cette différence a comme base matérielle la division du travail social. Et donc Durkheim est amené à prendre cet objet qui est initialement mis en exergue par Adam Smith dans les quatre premiers chapitres de La recherche sur la richesse, et Durkheim, après Auguste Comte, prend cet objet en disant « c'est une dimension sociologique fondamentale à partir de laquelle je vais montrer que cette cohésion va exister et par la densité sociale, par les moyens de communication, par la dimension d'échange quotidien que nous faisons dans notre existence. »
Alors vous venez de souligner, Philippe Stagner, la filiation, encore une fois, avec Auguste Comte. On se rend compte que c'est une vision bien spécifique, finalement, de la division du travail que développe Émile Durkheim, même si le thème peut se raccrocher, évidemment, à d'autres économistes. Mais justement, il explique comment cette vision-là est liée aussi et maille à partir, on va dire, avec ce que Auguste Comte avait déjà commencé à concevoir. Il l'explique justement dans la division du travail.
Nous sommes conduits à nous demander si la division du travail ne jouerait pas le même rôle dans des groupes plus étendus, si, dans les sociétés contemporaines où elle a pris le développement que nous savons, elle n'aurait pas pour fonction d'intégrer le corps social, d'en assurer l'unité. Il est très légitime de supposer que les grandes sociétés politiques ne peuvent se maintenir en équilibre que grâce à la spécialisation des tâches. Que la division du travail est la source, sinon unique, du moins principale, de la solidarité sociale. C'est déjà à ce point de vue que s'était placé Comte. De tous les sociologues, à notre connaissance, il est le premier qui ait signalé dans la division du travail autre chose qu'un phénomène purement économique. Il y a vu la condition la plus essentielle de la vie sociale. Pourvu qu'on la conçoive dans toute son étendue rationnelle, c'est-à-dire qu'on l'applique à l'ensemble de toutes nos diverses opérations quelconques, au lieu de la borner, comme il est trop ordinaire, à de simples usages matériels. C'est la répartition continue des différents travaux humains qui constitue principalement la solidarité sociale et qui devient la cause élémentaire de l'étendue et de la complication croissante de l'organisme social. Si cette hypothèse était démontrée, la division du travail jouerait un rôle beaucoup plus important que celui qu'on lui attribue d'ordinaire. Elle ne servirait pas seulement à doter nos sociétés d'un luxe, enviable peut-être, mais superflu, elle serait une condition de leur existence. C'est par elle, ou du moins c'est surtout par elle, que serait assurée leur cohésion. C'est elle qui déterminerait les traits essentiels de leur constitution. Par cela même, et quoique nous ne soyons pas encore en état de résoudre la question avec rigueur, on peut cependant entrevoir dès maintenant que si telle est réellement la fonction de la division du travail, elle doit avoir un caractère moral, car les besoins d'ordre, d'harmonie, de solidarité sociale passent généralement pour être moraux.
Mathieu Béra, on a entendu beaucoup de choses dans cet extrait qui est très riche, mais qui résume bien aussi le positionnement, la vision de cette fameuse division du travail selon Émile Durkheim, un ouvrage qui est issu de son travail de thèse, qui met plus d'une dizaine d'années à rédiger et qui est finalement publié en 1893. Très concrètement, ce qu'on entend, c'est que finalement, il y a une forme de rejet aussi du caractère du simple usage matériel, comme le dit Émile Durkheim, pour donner toute sa place au social et de fait à la notion de solidarité. Qu'est-ce que ça change très concrètement, ce passage à cette vision beaucoup plus sociale de la division du travail? Est-ce que ça implique finalement de repenser ne serait-ce que la finalité de cette division du travail? Est-ce que c'est au niveau, encore une fois, des conséquences de cette division du travail que Durkheim diffère considérablement des économistes?
Alors l'extrait qu'on vient d'entendre, je pense, est issu du premier livre de la division du travail social sur la fonction de la division du travail, donc produire de la solidarité. Et je pense que pour bien répondre à votre question, il faut revenir sur le titre de l'ouvrage de Durkheim, qui est quand même un petit peu bizarre. La division du travail social, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait dire. Et en fait, division du travail social, c'est au sens où il n'y a pas qu'une division du travail économique, donc social au sens large, dans lequel l'économique est encastré, pour reprendre des termes contemporains de la nouvelle sociologie économique et de Polanyi. Donc c'est l'encastrement de toutes les fonctions sociales dans cette loi de division du travail qui entraîne tout avec elle, et pas seulement l'économique. L'économique n'est qu'un aspect de cette division du travail, parce que la division du travail, elle s'opère dans tous les organismes sociaux, c'est-à-dire, par exemple, il y a des passages très intéressants sur la division du travail sexuel, dans la famille, dans le couple, des passages très modernes hein, sur qui pourraient presque inspirer le féminisme, où il essaye de comprendre sur quoi repose l'amour entre un homme et une femme, dans un couple, avec l'amour qui naît de cette spécialisation de chacun et de la complémentarité que cela produit, et donc de cette complémentarité va déboucher l'amour. Donc enfin bref, la division c'est au sens très large, et c'est vraiment le premier point de sa thèse qu'il a mis effectivement 10 ans à penser. Après, le deuxième point, c'est les causes. D'où vient cette division du travail, cette loi de division du travail qui avait été repérée par Auguste Comte et qui avait été repérée aussi par Spencer, dont on n'a pas encore parlé, Herbert Spencer. Et donc, parmi la cause principale, Philippe y a fait allusion tout à l'heure, il y a la densité que prennent les sociétés modernes, qui sont de plus en plus denses démographiquement, et ça a toutes sortes d'implications dans les relations entre les individus. Il y a de plus en plus de relations entre les individus. Ça entraîne une densité physique, une densité morale. Et d'ailleurs, le passage se termine sur cette idée de moralité. Alors, faut pas l'entendre forcément au sens de morale, de ce qui est bien et de ce qui est mal. À l'époque, on parlait aussi de morale pour dire sociale. Donc, morale, on disait les sciences politiques et morale. Quelquefois, c'est des synonymes, en fait, hein, sous la plume de Durkheim.
Ce qui est intéressant, Philippe Steiner, c'est que ce qu'on comprend aussi à travers vos explications, et notamment celle de Mathieu Béra, c'est que c'est quand même un nouveau paradigme qui se pose à travers Émile Durkheim. C'est que finalement, on cherche une autre façon de faire du lien social, de faire cohésion, notamment à travers le concept de solidarité. Mais pourtant, on pourrait se dire, et quand vous nous l'avez expliqué, notamment en nous expliquant la façon dont Adam Smith avait pris en charge ce concept de division du travail, pour le coup pas social, mais du travail, vous nous avez dit, c'est parce qu'un individu produit tel type de bien et un individu tel autre type que finalement, ils se rencontrent en fonction de leurs intérêts personnels, se serrent la main, ce qui est littéralement un contrat, et de fait établissent une forme de lien social. Selon Émile Durkheim, qu'est-ce qui vient remplacer ça? Comment ce lien-là, qui n'est plus un contrat, vient tout de même s'établir?
Durkheim ne remplace pas ces phénomènes. Il les prend comme des pratiques sociales qui sont essentielles, comme le passage qu'on vient de citer, comme Mathieu vient de le rappeler. C'est une base essentielle, mais il va mettre l'accent sur le fait que l'échange lui-même, l'intérêt, est quelque chose de trop volatile, de trop évanescent pour véritablement fonder le lien social, la cohésion sociale. Et d'ailleurs, Auguste Comte va créer, au-delà du terme de sociologie, va créer le terme d'altruisme, qui vient de l'italien altrui, donc l'autrui, pour justement montrer que à l'égoïsme marchand fait écho un altruisme social. Et Durkheim, de cette façon, va s'engouffrer dans cette voie, mais il va lui donner, mais c'est une grande différence avec Auguste Comte, il va lui donner une base institutionnelle. C'est-à-dire que la vie économique n'est pas uniquement limitée aux questions d'intérêt et d'intérêt réciproque, il faut qu'il y ait des institutions qui la fassent tenir debout. Alors, la première institution, me semble-t-il, à laquelle Durkheim va penser, c'est le contrat. Le contrat, ça renvoie au droit et plus fondamentalement encore, si on remonte, au religieux. Donc, le contrat. Et d'autre part, Durkheim va aussi, et là, rentrer en conflit avec la vision des économistes en disant la concurrence, que les économistes considèrent comme la manière de rendre, de donner une cohésion à l'activité économique, d'un point de vue social et moral, ça suffit pas. Il faut institutionnaliser les règles de la concurrence, et un des grands efforts de Durkheim, à partir de 1893, mais aussi dans les conclusions du suicide en 1897 et dans d'autres ouvrages, c'est de dire la concurrence désagrège la société, c'est une forme d'anomie sociale, de déliquescence des règles. Il faut réintroduire des règles dans le monde économique, et c'est le thème du groupement professionnel que Durkheim va mettre en place en appelant en quelque sorte à ce que les patrons et les ouvriers est un lieu dans lequel ils décident ensemble des conditions de travail, de la durée du travail, de l'hygiène, etc. Et éventuellement que de là naisse aussi une représentation politique. Donc il faut institutionnaliser l'économie pour qu'elle puisse jouer son rôle de fondatrice, de creuset, à la fois en termes de richesse, mais aussi en termes de moralité, de cohésion.
Oui, mais ça, Philippe Steiner, institutionnaliser l'économie, ce n'est pas nécessairement extrêmement nouveau. Des économistes, dits institutionnalistes, c'était déjà un peu saisi de la question. Il y a une forme d'héritage aussi chez
on a effectivement, au même moment, et c'est ce qu'il trouve quand il va en Allemagne et qu'il lit les travaux de Gustav Schmoller, c'est-à-dire des idées selon lesquelles des institutions existent. Mais Durkheim a, me semble-t-il, alors on peut le dire de deux manières, soit il est en France l'écho de cette vision de l'économie qui s'oppose très violemment à l'économie libérale de l'époque. On a très peu d'économistes libéraux français qui acceptent ce genre de choses, et Durkheim, avec la sociologie, fait entrer en ligne de compte dans le débat français ce qui existe au sein des économistes, avec l'opposition classique entre Gustav Schmoller, institutionnaliste, et Karl Menger, théoricien plus utilitariste, individualiste. En Allemagne, en Angleterre, on a aussi, et aux États-Unis, avec Veblen, on a un courant institutionnaliste. Donc Durkheim, de ce point de vue-là, rentre dans ce moule international, mais à sa manière particulière, en s'appuyant sur l'idée de sociologie et de la nécessité d'institutionnaliser les rapports économiques pour leur donner la stabilité nécessaire à cette cohésion économique et morale.
On le comprend, le rôle des institutions est crucial, mais chez Durkheim, il existe aussi des institutions qui sont économiques par définition, en plus des autres, évidemment. Là, il faut nous aider à comprendre aussi, Mathieu Béra, c'est que finalement, est-ce que vraiment, Émile Durkheim, la façon dont il cherche aussi à se distinguer des économistes, c'est en essayant de comprendre ce qui motive les individus. On a parlé de rationalité, on a parlé aussi de formes de contrats et d'intérêts privés. Est-ce que vraiment, Émile Durkheim me dit, attention, l'homo economicus tel qu'il est conçu par les économistes n'existe pas vraiment, ou en tout cas ne peut pas exister sans prendre en compte l'environnement social qui est le sien. Est-ce que c'est ça qui fait rupture aussi ?
Ben disons que Durkheim s'oppose vraiment à cette vision des économistes qui insiste sur l'intérêt individuel, sur l'égoïsme qui motiverait les actions. Il pense que non seulement la société ne peut pas reposer sur ses égoïsmes particuliers, mais il pense même que la vie d'un individu ne peut pas reposer sur des attitudes égoïstes. Et donc il écrit en même temps, bon ça on le saura de manière posthume, il fait des cours d'éducation morale dans son service, hein, parce qu'il est professeur de sciences sociales et de pédagogie, et dans la pédagogie, il y a toute une réflexion sur l'éducation. Et dans les cours d'éducation morale, il insiste sur cet apprentissage nécessaire de la morale au sens de l'apprentissage des règles collectives. Et ce qui doit motiver les règles d'action d'un individu, c'est l'intérêt pour les autres. C'est l'altruisme dont Philippe parlait et qui vient donc effectivement d'Auguste Comte et puis de Proudhon aussi, je crois. Et cet altruisme doit être enseigné, il doit être transmis par la société qui doit éduquer la jeunesse à donner et non pas seulement à être prédatrice. Comme on peut le voir dans l'actualité économique aujourd'hui, avec ces grandes puissances qui sont prédatrices, et puis à côté, il y a des sociétés qui se font prendre tout ce qu'elles ont.
Mathieu Béra, on le comprend, ce sont des fondements aussi que Émile Durkheim entend non seulement, bon, certes, critiquer de la part de l'économie, mais en fait reposer d'un point de vue sociologique. Très concrètement, on le sait, Émile Durkheim, il a énormément travaillé sur cette idée de proposer une méthodologie propre à la sociologie, avec des outils qui lui sont propres et une façon de réfléchir qui lui est propre. Dans quelle mesure cette méthode-là, elle s'inscrit aussi en creux, on va dire, en miroir de l'économie? Est-ce qu'il reproche finalement à l'économie, d'un point de vue méthodologique, ce qu'il reprochait à la philosophie par ailleurs, l'idée de science peut-être pas assez bien ficelée, pas assez bien construite de ce point de vue méthodologique?
Alors là, il faut qu'on parle de son autre ouvrage qui s'intitule « Les règles de la méthode sociologique », qui est paru sous forme d'article en 1994 dans la Revue philosophique, et qui a été repris l'année suivante sous forme d'ouvrage en 95. Donc, sans faire le tour de tous les chapitres de cet ouvrage, on peut aller directement, disons, au chapitre 5 sur l'explication du social par le social, qui est la règle qui définit la sociologie. Donc, il faut expliquer toute action sociale par une action sociale antécédente, par opposition, donc à ce qu'il caricature chez les économistes, une explication individualiste. Donc en fait, il s'oppose, aujourd'hui, si on prend les termes de contemporains, on s'y retrouvera mieux peut-être, il s'oppose à l'individualisme méthodologique et à la place, il propose une explication sociologique, du social par le social. Donc là, il s'en prend effectivement aux économistes, nommément. Hein, on avait vu au début de l'émission qu'il aimait bien avoir quelques cibles bien identifiées, en général des gens très connus. Donc il s'en prend notamment à Spencer. Bon, ça, c'est sa cible principale dans sa thèse. C'est l'auteur le plus cité et le plus attaqué. Mais dans les règles de la méthode, si je me souviens bien, il s'en prend à John Stuart Mill, fondateur de l'économie politique. Enfin, l'un des fondateurs de l'économie politique dans les années 1840. Et là, il s'en prend à sa méthode abstraite qui résonne sur l'homo economicus. Donc, on connaît tous les hypothèses totalement invraisemblables. Et Durkheim dit clairement que c'est invraisemblable et qu'il faut parler de l'homme réel et non pas de l'homme théorique.
Donc on le comprend, Durkheim poursuit année après année entre son premier ouvrage issu de sa thèse en 1893, puis cette publication en 1994, puis 95 sous forme d'ouvrage de ces fameuses règles de la méthode sociologique. Il poursuit ce travail-là avec toujours cette même vision, cette même lumière au bout du tunnel, on pourrait le dire, celle de faire de la sociologie une science. Et c'est cela aussi qui va rester en termes d'héritage. C'est un objectif d'ailleurs dont on discutait en 1866, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron qui rendaient de fait là hommage à Émile Durkheim.
Ce en quoi la plupart des gens pensent que la sociologie n'est pas une science comme les autres, c'est-à-dire par où ils en font une science plus difficile, c'est finalement qu'ils la croient une science beaucoup plus facile que les autres, beaucoup plus immédiatement accessible.
Oui, et c'est cette illusion de la facilité qui nous paraît constituer la difficulté fondamentale d'être sociologue. Cette illusion était déjà exprimée avec beaucoup de force par Durkheim dans des textes qui, toujours relus, ne sont jamais vraiment lus, sous la forme de ce que Durkheim appelait l'illusion de la transparence. En effet, chaque sujet social, en tant qu'homme, pense qu'il est ipso facto savant de l'homme. Et je pense que l'expression « sciences humaines »